Réplique, la tragédie des bolcheviks avec Olivier Rollin et Nicolas Vert. Connaître la tragique histoire de l'URSS, nous avons besoin de concepts, de chiffres, de statistiques. Mais pour ne pas rester extérieur à ce que nous savons, nous avons besoin que les concepts s'incarnent. Le totalitarisme, les camps, la guerre, ces réalités massives ne suffisent pas. Il nous faut des visages et des détails. C'est ce chemin des nombres aux noms, des abstractions aux individus, qu'emprunte le météorologue d'Olivier Rollin et la route de la Colima de Nicolas Vert, ainsi que le journal de Maria, une institutrice soviétique dans la guerre, que ce dernier vient de traduire. Commençons donc par Alexei Fedosevitch Vangengem, premier directeur du service hydrométéorologique de l'URSS. Qui était-il, Olivier Rollin, et pourquoi avez-vous choisi de relater son histoire ?
Alors, qui était-il ? C'était le fils d'un... Enfin, il était né dans la noblesse, dans la petite noblesse en Ukraine. Au moment de la guerre civile, il est puisqu'il naît à la fin du 19e siècle, au moment de la guerre civile, il est du côté des Rouges. Son père lui-même, d'ailleurs, n'émigre pas et se met au service du nouveau pouvoir. Et puis ensuite, il devient météorologue il participe à des troubles. Avant ça, il participe à des troubles étudiants, etc. Enfin, c'est un progressiste, disons. Bon. Et puis, il devient météorologue sur les bords de la Caspienne. Et puis, finalement, il est nommé en effet à la tête en 1920 et quelques. J'ai oublié la date. Excusez-moi. Il est chargé de créer le premier service unifié d'hydrométéorologie. De l'URSS. Bon.
Ce qui était un poste important.
Ce qui était un poste important, puisque, entre autres choses, c'était très important pour l'agriculture, mais aussi pour les transports. Et puis, enfin, il faut quand même faire remarquer aux auditeurs qui ne s'en rendraient pas compte que ça n'est pas rien, le territoire de l'URSS. Et donc, météorologiquement, ça n'est pas rien non plus, entre le Kamchatka et la Biélorussie, entre l'Asie centrale et le Grand Nord. Enfin, bref, tout ça, c'est très...
Il y a une multitude de fuseaux horaires et de climat.
Voilà. Et donc, c'est lui qui est un travailleur acharné et qui il appellera plus tard dans des lettres de déportation, il appellera ce service « mon cher enfant soviétique ». Avec une formulation un peu naïve comme ça. Mais enfin, en tout cas, c'est un passionné de son métier et il s'imagine qu'il contribue à la construction du socialisme en faisant cela. Et il est arrêté en 1934.
C'est-à-dire avant la Grande Terreur.
Avant la Grande Terreur. Il est arrêté. Alors, on ne sait pas exactement, on sait sous quel prétexte, mais on ne sait pas exactement, en fait, quel est le point de départ. Je pense qu'on ne le saura jamais. Sans doute un de ses adjoints, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un de ses adjoints l'accuse dans la presse spécialisée, dans les revues de services météorologiques, d'introduire des théories étrangères, des théories menchéviques, des théories étrangères, de ne pas citer une seule fois Lénine et Staline, etc., comme si c'était très utile s'agissant des dépressions et des fronts. En tout cas, il est arrêté et accusé de sabotage, et puis on rajoute aussi un peu espionnage. Voilà. Et il va être déporté aux îles Solovki. Et alors, c'est-à-dire un archipel au milieu de la mer Blanche, où a été créé celui qui passe pour être le premier camp de ce qui va devenir le goulag, bon, qui n'est sans doute pas exactement le premier, mais c'est le plus vaste, et c'est là qu'on va mettre au point les techniques de domestication, de dressage, etc. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de raconter sa vie ? Parce que, enfin, c'est toujours une ça commence toujours par des suites de hasard, quoi. Oui. Il se trouve que je suis allé aux îles Solovki pour la première fois en 2010. Tout simplement parce que je savais que c'était un endroit extraordinairement beau et puis que je connaissais quand même le début de l'histoire, quoi. Je savais que ça avait été un camp. Bon, et puis là, une femme qui s'appelait Antonina Sochina, je dis s'appelait parce qu'elle est morte maintenant, bon, m'a montré des documents, et parmi ces documents, il y avait des dessins et des herbiers et des très colorés, assez joliment dessinés,
très bien dessinés,
voilà.
À la fin du livre.
C'est cela, oui.
C'est extraordirement, c'est très émouvant. Voilà, parce que les dessins sont beaux.
C'est beau.
C'est des dessins qu'il faisait pour sa fille.
Voilà, qu'il faisait pour sa fille, qui avait 4 ans et demi au moment où il a été arrêté. Et donc, ça m'a frappé parce que c'était à la fois beau et en même temps extrêmement émouvant. Évidemment, cette relation maintenue entre un père, déporté et sa fille qui ne verra jamais.
Mais alors, dans ce que vous venez de dire de sa biographie, une chose apparaît, il n'a pas été conduit au communisme pour défendre ses intérêts de classe, au contraire. Et ça me fait penser à cette très belle phrase de Lévinas, « Qu'est-ce qui a conduit vers le socialisme ceux qui n'en avaient pas besoin? Peut-être l'âme, peut-être la conscience qui bat dans le silence de ceux qui sont repus. » Il y a quelque chose de cet ordre, et peut-être est-ce aussi ce choix initial qui vous a ému, et ému d'autant plus qu'il a été récompensé, comme on sait, le camp, et ensuite, nous le verrons, la condamnation à mort.
Oui, on a toujours plus d'un supplément d'admiration ou d'empathie, etc. pour ceux qui, comme le dit la dernière phrase de je ne sais plus quel livre américain des grandes années, il ne voulait rien pour lui, camarade, il ne voulait rien pour lui. Voilà, ça n'était pas pour lui, ça n'était pas pour défendre en effet ses intérêts de classe qu'il s'était mis au service du pouvoir bolchevique.
Pouvoir soviétique, oui. Alors, Nicolas Wertz, qu'est-ce que ce personnage, l'itinéraire de ce personnage, nous apprend sur l'Union soviétique? Enfin, vous qui êtes un spécialiste, comment avez-vous accueilli et compris son histoire?
Oui, c'est une histoire à la fois unique, parce que chaque personne est unique, et en même temps, par exemple, son extraordinaire naïveté par rapport à la situation et ne comprend pas ce qui lui arrive, me rappelle terriblement des grands classiques comme Evgenia Ginzburg et au fond tous ces communistes qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Je me souviens d'une discussion que j'avais avec Jacques Rossi, que j'avais bien connu, qui était ce communiste franco-polonais qui s'est retrouvé pendant 20 ans en camp, qui me disait toujours la grande perversité du système par rapport, par exemple, au système nazi, c'est que, bon, quand on était dans un système nazi, on voyait clairement qui étaient les ennemis, enfin, quels étaient les gens qu'on allait abattre. Tandis que dans le système soviétique, parmi les victimes, il y avait beaucoup de communistes. Ils n'étaient loin d'être les seuls, puisque c'est quand même une des choses que j'ai essayé de montrer dans La Grande Terreur, dans mon étude sur La Grande Terreur, c'est qu'au fond, les communistes ne faisaient les cadres communistes dont Khrushchev avait tellement parlé comme victime du système au 20e congrès, ça ne représentait que 6 ou 7% de l'ensemble des quelques 800 000 personnes qui furent fusillées en 1937-38.
Et en même temps, Staline avait voulu quand même liquider toute la génération des contemporains de Lénine.
Okay. Voilà. Donc, je dirais que, au fond, dans le système soviétique, il y a une complexité plus grande parce qu'il y a cette double élimination, à la fois l'élimination de toute la vieille garde léniniste parce qu'il y avait tout un problème de relation fondamentale entre Lénine et Staline, mais aussi la masse des anonymes, des non-communistes qui a été éliminée dans une sorte d'extraordinaire et terrible opération d'ingénierie sociale en 1937-38.
Alors oui, revenons peut-être justement sur le moment de son arrestation, sur les interrogatoires qu'il subit, et ensuite sur son refus, au fond bouleversant, de comprendre ce qui lui arrive. D'abord, ceci, il a rendez-vous avec sa femme pour la représentation d'un opéra au Bolchoï. Et sa femme l'attend éternellement. Il ne viendra pas. Et il se retrouve dans la bâtisse grise de la Loubianka, où là, il subit un interrogatoire auquel, effectivement, il n'entend rien.
Alors, oui, c'est-il exactement oui, passé, cette circonstance de l'arrestation, de l'attente au Bolchoï, je me la suis fait répéter, je l'ai vérifiée, etc., parce qu'elle paraît théâtrale, si je puis dire. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je crois que ça n'est pas la procédure normale d'arrestation. Enfin, en général, les corbeaux noirs, là, les véhicules du NKVD venait la nuit et bon, mais là ça s'est pas passé comme ça. Il a été arrêté dans la journée et donc sa femme en effet l'a attendu en vain. Et puis ensuite il a été interrogé donc pendant des semaines à la Loubianka. J'ai eu la chance d'avoir les procès-verbaux d'interrogatoire, qui je suppose maintenant, mais enfin ça Nicolas Vert doit le savoir mieux que moi, je pense que maintenant ce ne serait plus possible d'avoir ça, mais dans les
années...
Je crois que maintenant les archives sont beaucoup plus...
Nicolas Vert.
Oui, absolument, enfin pour les interrogatoires, bien sûr il faut faire partie de la famille des gens réprimés pour y avoir accès, puisque au fond sont dans les archives du FSB et les règles donc de la sécurité d'État, et les chercheurs n'ont pas accès aux dossiers personnels, et notamment aux dossiers d'instruction d'interrogatoire.
Mais ils avaient accès à ces dossiers personnels il y a quelques années encore. Est-ce que les règlements se sont durcis ?
Les règlements se sont, disons, précisés.
Ah oui, d'accord.
Précisés. C'est-à-dire qu'il y avait un petit flou.
Vous avez bénéficié du flou, Olivier Rollin.
Oui, enfin, c'est-à-dire, en fait, ces documents avaient été recopiés à la main par un ami de la fille, météorologue lui-même, que j'ai rencontré là-bas, qui vit maintenant, qui travaille à Koursk. Et voilà, qui me les a donc communiqués. Bon, bref, en tout cas, il est interrogé pendant plusieurs...
Et de quoi est-il accusé ?
Alors, il est accusé donc de sabotage, d'avoir volontairement saboté les prévisions météorologiques et tout le réseau des stations, etc., pour nuire à l'agriculture soviétique. Il faut dire qu'à l'époque, l'agriculture soviétique n'était pas dans un très bon état. Et accessoirement d'avoir espionné au profit des Finlandais, etc. Bon, mais enfin c'est pas pour ça qu'il sera condamné, c'est pour sabotage. Bon, alors il dans un premier temps il résiste, dans un second temps, au bout d'une quinzaine de jours d'interrogatoire, trois semaines je crois, il fait une déclaration, enfin, absolument glaçante, qui commence par « si on me laisse en vie, j'essaierai de m'amender », etc. Enfin, voilà. Où il reconnaît tous ces crimes imaginaires. Et puis, dans un troisième temps, il revient absolument là-dessus et il dit « non, je n'ai rien fait, je suis innocent », etc. Bon. Bref. Et il est condamné à 10 ans de camp. Et donc il part pour, dans un convoi comme ça, pour ce camp à destination spéciale des îles Solovki, où il arrive début 35, je pense.
Et alors justement là, je voudrais qu'on s'arrête à un phénomène à la fois terrifiant et paradoxal. Ceux qui étaient arrêtés, on les accusait de sabotage ou d'espionnage. Dans une vision totalement paranoïaque du monde... Il n'y avait pas d'adversité, seulement des adversaires. Quand ça ne marchait pas, l'agriculture notamment, ça devait être dû à quelques forces ennemies occultes. Bien. Mais en même temps, on voit bien que le stalinisme instaure la paranoïa et ne croit aucunement à sa propre paranoïa. Dans un livre de la regrettée Thérèse Delpech, L'Ensauvagement, j'ai lu ceci qui m'a glacé. L'une des plaisanteries favorites de Staline, c'était l'histoire d'un adolescent torturé pour qu'il avoue qu'il avait écrit Eugène Onéguin. Il meurt sous la torture et ses parents reçoivent la visite du NKVD qui leur dit « Félicitations ». Votre fils a écrit Eugène Onéguin. Les choses ne se sont pas passées comme ça, mais voilà qui faisait rire Staline. Donc, c'est comme si son propre cynisme démentait en même temps sa propre paranoïa. Alors, comment comprendre le stalinisme ?
C'est une particularité, en effet, du stalinisme, encore une fois, par rapport au nazisme, très, très clairement, ici. C'est une question extrêmement compliquée. J'ai essayé d'étudier, par exemple, sur les agents du NKVD, pour ne pas rester uniquement à Staline, qui interrogeaient les gens. Et lorsqu'on a parfois accès à savoir qu'est-ce qu'il pensait vraiment. Eh bien, d'une manière très cynique, je ne cite en Ivrogne et la marchande de fleurs un agent du NKVD qui disait à une personne qui venait d'être arrêtée et qui devait avouer, disait au fond, je n'ai rien contre vous, je sais bien que vous n'êtes pas une espionne polonaise, mais on doit remplir les quotas, on doit remplir la ligne. Et voilà, donc il y avait cette catégorie, et bon, on n'a pas de statistiques, on ne sait pas si elle était majoritaire ou minoritaire, mais il y avait très clairement cette catégorie de cyniques absolus qui savaient. Aussi, il faut comprendre que tous ces gens-là qui faisaient ce sale boulot, ils savaient que s'ils ne le faisaient pas, ils allaient eux-mêmes être arrêtés.
Et ils ont été arrêtés, liquidés, alors même qu'ils avaient fait ce boulot.
Exactement.
C'est arrivé.
Voilà. Et donc, après la Grande Terreur, 20% des agents du NKVD, au-dessus du rang de lieutenant, capitaine, enfin tout l'appareil moyen, a été éliminé. Voilà, donc là aussi c'est une particularité. Mais il y avait aussi l'autre catégorie, c'est-à-dire des gens qui prenaient plaisir à battre, à torturer, et voilà, il y avait une diversité de comportements.
Il y avait donc les cyniques, les sadiques, et y avait-il quelques croyants ?
Il y avait, oui, enfin quand on était sadique, on pouvait en même temps être croyant. Croyant. Et puis une toute petite minorité quand même de gens qui se sont suicidés quand même. Parce que pendant la Grande Terreur, dans la police politique et dans le parti, il y a eu aussi un petit pourcentage, mais enfin absolument négligeable, de gens qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient plus supporter aussi. Donc on a un grand...
Olivier Rollin. Oui, je voudrais juste signaler, puisque s'agissant de l'histoire que je raconte, oui. Une chose qui est quand même absolument stupéfiante, il est interrogé à la Loubianka donc par deux types du NKVD qui s'appellent Chanin l'un et Gazov l'autre, et l'un des deux, je crois que c'est Chanin, à moins que ce soit Gazov, mais non seulement sera fusillé, mais sera fusillé avant même Wangengame. C'est-à-dire, il est en train d'interroger un type qui n'a plus de boutons à son pantalon, etc., qui est là, qui est absolument tout d'un coup devenu un ennemi du peuple, et il ne sait pas que l'ennemi du peuple en question lui survivra. Pas de beaucoup, mais que lui-même sera fusillé avant.
Autre chose qu'on apprend dans ce livre, il est déporté, il veut à tout prix maintenir un contact avec sa femme et sa fille, il leur écrit de longues lettres, il accompagne ces lettres de dessins, comme vous l'avez dit, et parmi les choses qu'il crée, qu'il dessine, il y a des portraits de Staline. Et jusqu'à la fin, il dessine des portraits de Staline, il écrit de longues missives à Staline lui-même, aux dirigeants de l'Union soviétique, dénonçant l'erreur dont il a été victime, et il refuse de croire que, justement, le bolchevisme puisse être ce non-sens-là. Et semble-t-il, ce refus, il le maintient jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle conclusion en tirer, Olivier Rollin ?
Mais justement, je n'en tire pas de conclusion, et là, je pense que dans ce, enfin, chaque individu est singulier, et je pense qu'on ne saura plus jamais ce qu'il faut en penser. Ce qui est possible et même probable, c'est qu'en effet, il manque de lucidité comme des centaines de milliers, des millions d'autres, et qu'il, et pas seulement en Union soviétique, en France aussi, etc. Et qu'il continue à y croire en effet jusqu'au bout. Bon, disons que c'est ça qui est explicite dans ses lettres. Bon, mais d'un autre côté, les lettres sont lues par la censure, évidemment. Donc il peut faire ça aussi pour protéger sa femme et sa fille. J'ai appris dans les livres de Nicolas Vert qu'il y a eu, si je ne m'abuse, 44 000 femmes d'ennemis du peuple, entre guillemets, qui ont été elles-mêmes déportées simplement parce qu'elles étaient femmes d'ennemis du peuple, et les enfants mis dans des orphelinats d'État. Donc, c'est peut-être aussi pour... voilà. Et enfin, c'est c'est peut-être aussi, et ça se sent de temps en temps dans des lettres où il dit la première année de déportation, j'avais encore de l'espoir, la seconde année je n'en avais plus, la troisième année c'est vraiment le désespoir qui croît. Bon, peut-être qu'il s'accroche à la lettre morte de cette croyance. Peut-être qu'au fond de lui-même, il sent bien qu'il n'y croit plus, mais que s'il se l'affirme à lui-même, il va s'effondrer. Donc je pense que c'est un mélange de toutes ces choses-là, mais personne ne le saura plus.
Est-ce que cette foi-là, maintenue jusqu'au bout et contre l'évidence, contre même ce qui vous arrive, était un phénomène répandu, Nicolas Vert?
C'était répandu, disons, parmi cette génération de communistes. Encore une fois, les grands classiques le montrent. À la fois Solzhenitsyn, Ginsburg, etc. Et il y a d'ailleurs une très grande différence entre cette génération et les véritables opposants qui vont se retrouver au goulag après la guerre, c'est-à-dire les nationalistes, les militants baltes, ukrainiens de l'Ouest, etc. Et là, il y aura de vrais opposants, tandis que cette génération de croyants, qui est née au fond avec la Révolution, je pense que beaucoup étaient comme le météorologue et n'ont rien compris, ou en tout cas peut-être seulement vers la toute fin.
Alors oui, nous allons parler de la toute fin tout de suite, mais là je voudrais citer un extrait de Tout passe de Vassili Grossman, auquel vous vous référez, Olivier Rollin, aussi dans votre livre. Il s'agit du goulag et un travailleur du comité international de la jeunesse, talmudiste et dialecticien, avait expliqué avec force tic à Ivan Grigorievitch qu'il n'avait commis aucun crime contre le parti, mais que les organes de sécurité avaient eu raison de l'arrêter comme espion et adepte du double jeu, car il appartenait à une couche hostile au parti, à la couche qui donnait précisément naissance aux double faces, aux trotskistes, aux opportunistes de fait, aux géniards et aux mécréants. Un détenu intelligent qui avait été fonctionnaire du parti en province avait lié conversation avec Ivan Grigorievitch. Quand on abat la forêt, les copeaux volent, mais la vérité du parti reste la vérité, elle est au-dessus de mon malheur, et se désignant lui-même, il avait ajouté « Je suis un de ces copeaux ». Mais voici ce qu'ajoute Vassili Grossman. Il s'était troublé lorsque Ivan Grigorievitch lui avait répliqué « Mais justement, le malheur, c'est qu'on abatte la forêt ». Pourquoi abattre la forêt? Voilà. Mais en tout cas, c'est un peu le destin de ce météorologue. Sauf que son malheur ne s'est pas terminé au goulag. Après avoir été arrêté pour sabotage, il a été aussi une victime de la grande terreur, celle, Nicolas Vert, dont vous relatez l'histoire dans L'ivrogne et la marchande de fleurs, autopsie d'un meurtre de masse. Alors que lui est-il arrivé? Pour finir, Olivier Rollin.
Alors pour finir, donc en 1937, donc dans cette période de la Grande Terreur, sans qu'aucun nouveau fait lui soit reproché, sans même qu'il soit au courant de quoi que ce soit, se réunit, comme dans tout le territoire de l'Union soviétique, ce qu'on appelle une troïka, bon, donc une juridiction d'exception, composé de trois fonctionnaires, un du NKVD, un du parti et un de la procurature, si je ne me trompe. Voilà, se réunit donc secrètement cette troïka qui traite des centaines de dossiers tous les jours. Et parmi ces dossiers, il y a le sien. Et à ce moment-là, donc, la politique de Staline et de Iejov, le chef du NKVD, c'est donc cette politique exige des quotas de morts, des quotas de condamnation en première catégorie, de condamnation en seconde catégorie, c'est-à-dire 10 ans de déportation. Bon, la troïka en question examine des centaines de dossiers et décide que pour lui, comme pour d'ailleurs 80% ou 90%, ce sera la mort. Voilà, sans encore une fois qu'aucun fait nouveau lui soit reproché, sans qu'il soit tenu au courant du fait qu'il est passé devant une juridiction d'exception. Bon, il n'est pas physiquement présent. Et voilà, ensuite, au camp des Solovki, on réunit un convoi de 1800 et quelques personnes, enfin, c'est scindé de 1116 personnes, et puis il y en a 800 autres qui seront tués autrement. Ce convoi, on l'évacue vers le continent, et il les mises à mort, finalement, enfin, les 1116 qui sont devenus 1111, parce qu'il y en a qui sont morts en chemin, sont exécutés de façon abominable au fond d'une fosse, dans une forêt. Je dis exécutés de façon abominable parce que c'est peut-être, mais quand on dit fusillé, il y a une espèce de grandeur, n'est-ce pas, de l'exécution de Maximilien, tout ça, enfin ça fait un peu, mais c'est pas du tout, ils sont tués comme
des
ils sont tués comme des animaux de boucherie, quoi, enfin vraiment d'une balle dans la nuque, ligotés, nus, etc., enfin voilà. Et bon, toutes ces choses là que je raconte dans le livre, on ne l'a su que très très longtemps après, on ne l'a su vraiment que 60 ans après. Et ceci grâce aux enquêtes dont je suis entièrement tributaire, des gens de Mémorial, Irina Fliguet, Yuri Dmitriev, etc.
Et donc, sa femme
est morte sans savoir. Elle a su quand même, en fin de compte, après la mort de Staline,
qu'il était mort.
Soit ouais. Alors que jusque-là, on lui avait dit.
Il est mort en quelle année?
Il est mort donc en 37.
Et elle a su.
En 56. Elle a su 20 ans, enfin 19 ans après que.
Alors qu'on lui avait dit qu'il avait été envoyé.
Condamné à 10 ans.
Droit de correspondance.
Voilà, c'est ça. Et mais elle a su qu'il était mort, mais elle n'a pas su ni comment, heureusement sans doute, ni où. Bon, il a fallu encore 20 ans d'enquête par des militants, pas par l'État soviétique, bien sûr, pour découvrir le lieu et les circonstances de l'exécution.
On voit ce que représente ce type d'exécution, une balle dans la nuque, dans le film de Vaïda, Katyn. Ça, c'est un. On sent à quelle mise à mort, si j'ose dire, on a affaire. Donc ça, c'est un des thèmes qui vous a beaucoup préoccupé, Nicolas Werth, celui de la grande terreur. Mais là, j'apprends que cette grande terreur avait visé aussi des gens qui étaient dans les camps.
Oui, oui, absolument.
Nicolas Werth.
Parce que dans une des grandes opérations, il y avait des numéros aux opérations, et dans l'opération 00447, qui était la plus grande des opérations répressives secrètes de masse, il y avait un volet qui s'appelait l'élimination des criminels particulièrement endurcis dans les camps. Et donc, les camps du Goulag sont devenus, en 37-38, on peut dire des camps de la mort. On en a exécuté à peu près 40 000, et Van Genem faisait partie de ces 40 000 exécutés qui étaient déjà dans les camps. Donc c'était une petite partie de l'opération, si on peut dire. Et encore une fois, oui, comme vous le soulignez, au fond, leurs proches n'ont appris le sort de des membres de leur famille que 50 ans après. Il y a des documents assez extraordinaires qui sont par exemple exposés au musée de Magadan. On voit les lettres qui étaient adressées aux membres de la famille dans les années 50, enfin après la mort de Staline, dans lesquelles on inventait les causes de la mort et une date. On l'inventait, selon les instructions d'ailleurs du KGB, donc des instructions qui disaient inventer une date de mort qui corresponde dans les 10 ans entre 1937 et 47 et une cause de décès.
C'est ce qui se passe dans son cas d'ailleurs, puisque avec une incohérence extraordinaire, la procurature, enfin, ou le, je ne sais plus, enfin, en tout cas, au niveau central, on dit à sa femme qu'il a été condamné à mort par une troïka et que c'est tout à fait une erreur regrettable et que la condamnation à mort est annulée. Bon, mais enfin, il serait bien temps d'annuler une condamnation à mort. Mais en revanche, l'oblast, ou enfin une administration régionale, lui donne une autre version en disant qu'il est mort en 46, je crois, d'occlusion intestinale. Donc le mensonge continue. Voilà, continue à faire proliférer.
Avant de quitter les météorologues, je voudrais qu'on en revienne à la période de déportation. Et je voudrais évoquer avec vous la figure très étonnante d'un jeune détenu, Tchirkov. Parce que celui-ci est plein de vitalité. Il se retrouve aide-bibliothécaire. Et l'on apprend dans votre livre que dans ce camp, il y avait une très belle bibliothèque. 50 000 ouvrages.
30 000, oui.
30 000 ouvrages. Et Tchirkov, dites-vous, se souvient avoir eu entre ses mains une édition des Misérables annotée en russe et en français de la main de Tourguéniev et une édition originale de la Pucelle d'Orléans. Et il a lu pendant ses séjours au Solovki la géographie universelle d'Élisée Reclus, la charteuse de Parme, l'histoire de Tom Jones, de Fielding. Et même, en juillet 1937, les deux premiers tomes d'À la recherche du temps perdu, très à la mode à l'époque, dit-il. Ça, quand même, c'est
oui.
Tout à fait inattendu.
Oui, c'est très, très inattendu. Bon, il ne faut pas que le lecteur non prévenu en tire des conséquences qui seraient fausses sur ce qu'était l'ordinaire d'un camp soviétique. Bon. Je crois que le camp des Solovki était assez particulier. Je ne prétends pas, alors peut-être enfin Nicolas Werth, qui est beaucoup plus savant que moi sur ces affaires, peut-être me corrigera, mais en tout cas moi je ne comprends pas complètement le fait de cette bibliothèque et d'une manière générale de la vie culturelle qu'il y avait dans ce camp. Et je n'ai pas trouvé auprès des Russes eux-mêmes, enfin, d'autres explications que celles que je vais donner là maintenant. C'était le premier, donc on tâtonnait, on expérimentait, etc. Ça n'était pas encore, enfin, au début, en tout cas, ça n'était pas encore devenu, l'Union soviétique n'était pas devenue cette espèce d'État entièrement policier, paranoïaque, etc. Et deuxièmement, il y avait une concentration très grande d'intellectuels, d'anciens, enfin de ci-devant, enfin de gens qui avaient des bibliothèques et qui avaient l'usage des livres. Et donc ces deux choses-là faisaient, les détenus arrivaient avec des livres, parce que la bibliothèque était constituée par les livres qu'ils amenaient ou que leur famille avait le droit de leur envoyer. Voilà. Bon. En tout cas, le fait est, il y avait cette bibliothèque qu'on connaît surtout par le témoignage de ce Youri Tchirkov, qui a été déporté là-bas à 15 ans, sous des prétextes absolument fantasmagoriques, et qui a eu, lui, la chance de s'en tirer, longtemps après, il est vrai, puisqu'il est sorti du système des camps après la mort de Staline, 20 ans après, et il a écrit des mémoires, qui sont, dont on a la traduction française, et où il raconte, en effet,
En traduction française,
oui, ces mémoires? Oui, ça s'appelle, sous un titre qui est la traduction exacte du titre russe, d'ailleurs, mais ça s'appelle C'était ainsi. C'est un titre un peu plat, et c'est absolument passionnant. Et ce jeune garçon, donc, avec un courage, une énergie inouïe, arrive, donc, séparé de ses parents, séparé de sa famille, etc., arrive et se dit, et il constate qu'il y a des tas de gens là qui parlent, qui connaissent les mathématiques, qui connaissent la physique, qui parlent le latin, l'hébreu, le grec, etc. Il décide qu'il va faire ses études là. Et notamment, Van Gengheim va lui apprendre les mathématiques et la physique.
Voilà. Donc, il évoque le personnage de Van
Gengheim. Il évoque le personnage un peu austère, un peu raide, mais qu'il respecte quand même beaucoup.
Est-ce que c'était tout à fait exceptionnel, cette situation des îles Solovki?
Oui, tout à fait.
Nicolas Werth.
Absolument, oui, c'était tout à fait exceptionnel, parce que, comme vous le dites très justement, il y avait quand même un autre régime, en tout cas au début, bon, disons pendant les années 20, il y avait vraiment la fine fleur de l'intelligentsia qui n'était pas partie en exil, et on avait le droit encore de recevoir... d'apporter, même de recevoir par la poste des livres. Donc, c'est une situation radicalement différente des camps qu'on va retrouver ensuite à la Colima, où il n'y a évidemment pas le même type de bibliothèque, même si toujours il y a un volant au goulag de éducation politique et civique, et par exemple des rapports de l'administration du goulag vous comptabilise le nombre de lectures de journaux à haute voix qui ont été faites par les détenus ou le nombre de journaux qui ont été lus, une littérature bureaucratique tout à fait incroyable.
Oui, mais quand même, ce que vous racontez, Olivier Rollin, dans Le Météorologue, m'a remis en mémoire un livre absolument extraordinaire de Joseph Jabski, l'auteur de Terre inhumaine, Proust contre la déchéance. Ce sont des conférences qu'il a prononcées dans un camp, qui n'était peut-être pas le Goulag, mais c'était un camp soviétique pour détenus polonais à Grazowiec. Et ce sont des conférences absolument passionnantes où il fait état d'une œuvre animée par le désir passionné de rendre clair et lisible, de rendre conscient tout un monde d'impressions, d'enchaînements les plus difficiles à atteindre, où il parle également du fait que Proust avait jeté sa lanterne d'analyste dans les recoins les plus secrets de l'âme humaine, que la plupart des hommes préfèrent ignorer. Donc il s'agit de Proust, encore une fois. Et cela m'a évoqué une méditation de Kundera à propos du camp très spécial de Theresienstadt, où les Allemands laissaient vivre les détenus, c'est un camp nazi, d'une façon relativement civilisée pour pouvoir les exposer au nigaud de la Croix-Rouge internationale. Et il y avait une vie culturelle très intense. Et dit Kundera, que représentait l'art pour eux, pour les détenus de Theresienstadt, la façon de détenir pleinement déployée l'éventail des sentiments et des réflexions afin que la vie ne fût pas réduite à la seule dimension de l'horreur. Et j'ai vu ça dans les conférences de Chomsky, mais aussi dans les lectures de Tchirkov, et peut-être dans la vie intellectuelle du météorologue lui-même. C'était une façon de tenir debout, de résister à l'horreur et de résister même au simplisme que lui imposait la vie dans le camp. Olivier Rollin.
Oui, sans aucun doute, oui. Enfin, moi, j'ai puisque je me suis intéressé à cette histoire de la bibliothèque et j'ai fait un documentaire enfin là-dessus, et j'ai eu la chance de retrouver un certain nombre de ces livres, des livres, puisque le camp ayant fermé à la veille de la guerre, la bibliothèque avait disparu. Bon, et j'ai retrouvé quelques-uns de ces livres, alors pas Proust, pas Les Misérables, mais quand même Les souvenirs d'égotisme de Stendhal, par exemple. Bon, c'est quand même inouï d'imaginer, en effet, un déporté dans des îles cernées par la glace pendant 6 mois par an, lisant Les souvenirs d'égotisme de Stendhal. Bon. Et évidemment, enfin, on sait par les quelques témoignages qui nous sont parvenus, etc. On sait que ces livres-là ont été vraiment le seul petit, enfin, avec la correspondance avec leur famille, quand le seul petit espace, disons, d'une liberté, une liberté de l'imagination, au moins, liberté de la pensée, enfin, qu'on a eu.
Alors maintenant, Nicolas Vert, j'aimerais que nous en venions à d'autres individus de chair et d'os. Et d'abord, certains de ceux que vous évoquez dans votre carnet de voyage, La route de la Colima. Édouard Bérezine. Je crois qu'il y a une statue de Bérezine à
Malaga. Oui, il y a une statue de Bérezine à Magadan, qui montre.
Et alors, qui était-il? Parce que sa trajectoire aussi est tout à fait inouïe. Lui, il était plutôt du côté des bourreaux, mais quand même.
Oui, quand même.
C'est un personnage.
Oui, un personnage extraordinaire. Donc, d'abord, Édouard Bérezine, il faut savoir que c'est un Letton, donc entré très tôt au parti, mais qui avait fait des études d'art, qui était. Il fait les beaux-arts à Berlin, d'ailleurs, avant la Révolution. Ensuite, il était entré au parti et il dirigeait un groupe de tirailleurs lettons qui était la garde rapprochée de Lénine en 1918. Et ensuite, il a été nommé à divers postes de la police politique. Et notamment en 1929, sur ce grand chantier, un des premiers grands chantiers de main-d'œuvre pénale qui était le complexe de cellulose de la Vichera, où il a très bien réussi à monter son usine très rapidement. Et en 1932, Staline lui confie cet objectif absolument stratégique de développer la Colima, qui était une grande réserve aurifère et donc un tiroir-caisse pour les devises, pour le régime. Et il va donc organiser une sorte de potentat tout-puissant, cette région vide d'hommes, totalement vide d'hommes, où il va amener des dizaines et des dizaines, puis des centaines de milliers de détenus à la Colima. C'était une région extraordinairement inaccessible, puisqu'il y avait à peu près une une dizaine de jours en train, mais en fait ça mettait beaucoup plus longtemps, on mettait souvent un mois pour arriver jusqu'à Vladivostok, et de là-bas, on prenait un bateau, il y avait encore une semaine à fond de cale, pour arriver jusqu'à ce Far East, cette terre de colonisation. Et alors, l'image de Berzine telle qu'elle est aujourd'hui, on est en effet très surpris, en arrivant à Magadan, de voir que le buste de Berzine trône devant la mairie. Donc il est à la fois le fondateur de toute cette région, le fondateur de Magadan, et ensuite, évidemment, non pas accessoirement, mais au fond, le grand ordonnateur de ces camps, l'organisateur de ces camps de la Colima. Mais encore une fois, lui tombe victime de la Grande Terreur en 37 et 38, il est arrêté. Donc on voit cette ambivalence, il est à la fois le bourreau, l'organisateur du système des camps et une victime. Et évidemment, on joue beaucoup sur ce double caractère.
Et pourquoi a-t-il été, lui, étant donné le rôle très important qu'il avait joué, a-t-il été choisi au moment de la Grande Terreur par les organes?
Comme proche de Lénine, au fond, c'est l'élimination de la vieille garde. En plus, il était letton, donc éminemment soupçonné, parce que pendant la Grande Terreur, il y a toute une composante xénophobe, et on vise en particulier toutes les diasporas polonaises, allemandes, lettonnes, baltes en général, qui peuvent avoir des liens imaginaires ou possibles avec les ennemis de l'extérieur. Et donc il est d'ailleurs arrêté comme espion polono-japonais. Donc c'est extraordinaire, mais...
Ah oui, toujours espion.
Il y a cette photo extraordinaire, qu'on voit dans le bouquin de Thomas Kijny, là, où on le voit avec sa pelisse en peau d'ours et la Rolls-Royce, qui était celle de Krupskaya, enfin de la veuve de Lénine.
Le livre de Nietzsche, c'est un livre de photographie.
Il y en a deux, il y a l'un qui s'appelle La Grande Terreur et l'autre qui s'appelle Goulag, je crois, simplement, où il y a des photos absolument bouleversantes.
Oui, cette Rolls-Royce rappelle un peu le marchand de Lodz dont parle Rudnitsky, c'est-à-dire Rumkowski, qui était devenu le grand potentat du ghetto de Lodz, avant, dit-on, d'être embarqué pour Auschwitz en wagon Pullman. Mais justement, était-il un terrible bourreau, puisque vous avez employé ce terme, Nicolas Werth, ou en tant que communiste convaincu, ménageait-il les forçats qui avaient une tâche très importante à accomplir?
Non, à vrai dire, oui, essayé à l'époque Khrouchtchevienne, encore une fois, de le présenter comme quelqu'un qui aurait économisé la main-d'œuvre. Mais en fait, lorsqu'on regarde dans les archives, on voit que durant sa période, la période où il était aux commandes, entre 32 et 37, il a multiplié par 6, par exemple, la norme d'extraction individuelle de chaque détenu. Et en fait, il n'était pas du tout ce manager doux et efficace. Bon, mais il est vrai que, étant donné que cette région était une région où il n'y avait rien avant, il y a toute une aspect d'une épopée du non pas du Far West, du Far East, et donc il est vu comme quelqu'un qui a mis en valeur cette région, mais à quel prix?
À quel prix? Cela, oui.
Pardon, si je peux me permettre, parce que je relisais très rapidement là comme ça avant de venir des passages de Chalamov. Chalamov lui-même est un tout petit peu ambigu sur lui, parce qu'il y a un moment où il dit il était comme tous les premiers tchéquistes, il était un esthète comme tous les premiers tchéquistes. Il y a des moments où il y a une sorte d'admiration, mais de
même Chalamov, oui, absolument d'accord. Par contre, Chalamov est beaucoup plus sévère pour le suivant qui est Nikishov.
Beaucoup plus sérieux. Et d'ailleurs, ensuite, la fonction répressive semble l'avoir emporté sur la fonction économique. Et les normes n'étaient plus du tout respectées.
Absolument. Donc, il y a toujours ce double aspect de la fonction du goulag, la fonction répressive et la fonction économique. Bon, ce qu'on prouvé les historiens qui ont travaillé sur la fonction économique du goulag, c'est que, au fond, le goulag était foncièrement une entreprise qui n'avait aucun sens de la rentabilité. Mais il y a eu toute une discussion sur cette question de la rentabilité économique du goulag, où de toute façon, évidemment, ce sont des régions où personne ne serait allé de son propre gré. Mais en fait, cette question de la rentabilité du goulag, elle s'est posée au fond jusqu'à la fin, parce que pourquoi on a supprimé finalement le goulag ? Pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques. Après la mort de Staline, on a déchargé, enfin on a enlevé, grâce à une amnistie, on a libéré plus de la moitié des détenus, parce qu'on s'était rendu compte que le goulag n'était plus du tout rentable. Et ça encore avant même la mort de Staline, il y avait des discussions sur la question de la rentabilité du goulag.
Et il y a un autre personnage que je voudrais que nous évoquions brièvement, et ça nous remènera à l'existence d'une certaine forme de culture dans le goulag, c'est Vadim Kozin, qui était, dites-vous, un ténor extrêmement célèbre en Union soviétique. Il avait été même invité par Staline à Téhéran, lors de la fameuse conférence de Téhéran en 1943, pour, je crois, avec Marlène Dietrich, chanter en l'honneur de Churchill, dont on célébrait l'anniversaire, et qui s'est retrouvé au goulag, mais dans une situation relativement privilégiée.
Oui, il s'est retrouvé donc à la Colima très rapidement après Téhéran, dès 44, et là, il faisait partie, comme un certain nombre d'autres artistes, au fond, d'une sorte de caste privilégiée au goulag, c'est-à-dire que les dirigeants locaux de la Colima voulaient leur opéra, leur théâtre, et Kozin chantait pour la nomenclatura du parti du NKVD, comme beaucoup d'autres danseurs, chanteurs du Bolchoï, qui ensuite avait un statut à la fois de détenu, mais aussi avec une situation privilégiée qui jouait, dansait, chantait pour les théâtres du goulag.
Il y avait aussi des théâtres au goulag. Et là, je voudrais évoquer une tonalité mélancolique que je retrouve dans vos deux livres. Nicolas Werth, à un moment donné, vous rencontrez dans une pizza vraiment du bout du monde, enfin, vous discutez avec des serveuses qui vous parlent du temps de Sovok, puisque c'est à la recherche du temps de Sovok que vous faites ce voyage. Sovok, cette expression désigne l'Union soviétique et son mode de vie, la pénurie généralisée et ses habitants faisant la queue pour tout. On ne sait pas très bien d'où vient cette expression, mais c'est quelque chose de totalement abstrait et d'inconnu. Et quand on leur demande, et nous sommes à Magadan ou dans les environs de Magadan, ce que c'est que le goulag, elles n'en ont jamais entendu parler, c'est un groupe de rock, demande-t-elle. Et Olivier Rollin, vous ne parlez pas de cela, mais vous parlez aussi du fait que, sous nos climats, l'expérience de l'Union soviétique est très largement ignorée. C'est une histoire ignorée, dites-vous. Donc, comme si tout ça, la grande épopée révolutionnaire, l'enthousiasme initial et sa retombée atroce, tout cela était tombé dans l'oubli. Alain Besançon parle de l'hypermnésie du nazisme, de l'amnésie du communisme. Mais si c'est vrai, il y a vraiment de quoi avoir le cœur serré, Olivier Rollin.
Oui, enfin, je crois que c'est vrai. Je crois que l'épopée révolutionnaire a été, enfin, je ne sais pas, je me souviens dans ma jeunesse, en tout cas, c'était encore très, très, très présent dans l'imaginaire. Voilà, on allait voir les films d'Eisenstein et tout ça. Enfin, c'était presque, ça faisait partie de l'ABC de la vie culturelle d'un étudiant, mettons. Bon. C'est plus le cas maintenant. Bon, mais en revanche, le goulag, l'écrasement sanglant, la dévoration sanglante de la révolution par le pouvoir soviétique, ceci, je crois, n'a jamais fait partie sérieusement de notre culture historique collective, quoi. Enfin, bien sûr, il y a eu le moment de la sortie de
Soljenitsyne,
l'archipel du Goulag, etc. Il y a eu des moments où on en a beaucoup plus parlé.
Il y a eu
Vassili
Grossman aussi.
Enfin, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, même parmi les gens cultivés, le mot Kolyma, sans doute, doit dire quelque chose, quand même, à cause de Chalamov, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas une personne sur mille parmi les gens lettrés qui pourrait citer un camp de la Kolyma, enfin, ou un nom de la Kolyma, voilà. Même Magadan, dont nous parlons, je pense que beaucoup d'auditeurs n'ont pas, nous aurions peut-être dû préciser que c'était l'endroit où débarquaient les déportés. Enfin, voilà, il me semble qu'il y a une très, très, très grande, oubli, de ce que ça a été.
Et ce qui est encore plus surprenant, c'est d'apprendre en vous lisant, Nicolas Berthe, que cet oubli sévit en Union soviétique, ce qui voudrait dire qu'une association comme le Mémorial, qui d'ailleurs je crois aujourd'hui est menacée, a beaucoup de mal à se faire entendre.
Bien sûr, aujourd'hui, parce que moi j'ai connu Mémorial il y a 25 ans, lorsqu'il n'y avait pas plus de 100 000 membres de l'association. Aujourd'hui, ça s'est réduit comme peau de chagrin. Et la grande différence entre l'expérience allemande et l'expérience russe, c'est qu'en Allemagne, il y a eu un véritable travail de mémoire sur le nazisme qui n'a jamais eu lieu dans la Russie post-soviétique.
Et il est clair qu'avec Vladimir Poutine, la Russie post-soviétique n'en prend pas vraiment le chemin.
Absolument.
Bien, mais écoutez, en tout cas, moi, je renvoie les auditeurs qui ont des lacunes dans leur culture à la lecture de vos livres. Alors, Olivier Rollin, le météorologue, très beau livre publié aux éditions du Seuil. La route de la Kolyma, Nicolas Berthe, ce carnet de voyage passionnant est paru chez Belin. Nous n'avons pas eu le temps d'évoquer le journal de Maria, une institutrice soviétique dans la guerre, 1941-1943, ouvrage Nicolas Berthe que vous avez traduit et présenté pour les éditions Autrement. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Ochard, Alexandra Malka et Didier Lagarde. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.